RCI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h. Ici soutient la musique locale. Écoutez, voici l'un de nos coups de cœur.
Ferdinand, le temps qui reste.
Pédale appuyée, moteur accélère, gauche, droit, embraye, accélère, frein, accélère, pleine balle, dérape, pied gauche, droit, accélère, frein, lâche tout, lâche, relâche, tel guide de tous ces cracks branleurs, expressément énervé qui passe franchement.
Ferdinand, le duo Mayennais réinvente la chanson française.
Le temps qui reste.
Entre mélodies envoûtantes et textes ciselés, authentiques, sensibles et puissants, Ferdinand, c'est l'émotion à l'état brut.
Défile et défile et défile. Sur ta droite, tu poses, tu déposes et tu te casses.
C'était Ferdinand.
Mais t'espères, oui t'espères, que bientôt ce sera rideau, repos, rideau.
Un coup de cœur, ici Mayenne.
Zéro.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Bourgogne.
Nous partons à la découverte des Maranges, ce petit territoire partagé entre trois villages. Chéilly-les-Maranges, Sampigny-les-Maranges et Desize-les-Maranges, au lieu de la prochaine Saint-Vincent tournante 2026. Alors, avec Plus belle la vigne, on zoome sur ce territoire viticole caché dans une petite vallée. Ici, les coteaux font partie de la côte de Beaune, mais en Saône-et-Loire. Explication avec Élodie Roy, viticultrice et vice-présidente du comité d'organisation de la Saint-Vincent.
La côte de Beaune s'étale d'une même exposition, mais il y a une faille géologique à Centenay. Et les Maranges, on est une vallée un petit peu à part, je dirais.
Alors là, Centenay, c'est dans quelle direction ?
Centenay, c'est juste en face. Voilà, là-bas.
C'est dans le petit creux là-bas.
Là, vous voyez des bâtiments en face.
Oui.
Là, c'est tout le début de Centenay.
D'accord. Voilà. Et donc après, il y a les hauteurs, en fait, il y a les collines.
Les coteaux, voilà.
Les coteaux.
C'est une vallée, en fait. Les Maranges, vous avez la vallée de la Causanne et la vallée de la Dune. Donc la Causanne, c'est une petite rivière qui circule sur Chéilly, sur Sampigny, qui prend sa source en fait à Vauchignon, au bout du monde. Donc, c'est un nom qui ça s'invente pas.
C'est joli.
C'est une petite rivière qui fait 14 km et qui se jette dans la Deune, juste à la sortie de Chéilly. Donc cette rivière, elle passe au milieu là. Le petit village de Sampigny qui est ici, très étriqué, très enclavé, et sur les hauteurs, vous avez Desize et tout en haut le petit hameau de Borgy et la montagne des Trois Croix qui est en face de nous. Connue aussi sous le nom de Mont-de-Seine. Alors, bon, moi je les vois les croix, mais je connais. C'est vraiment juste en face de moi, je ne sais pas si vous voyez.
Non, mais
le petit point culminant.
D'accord.
Oui, là, on est à 521 mètres d'altitude, je crois. Et le vignoble des Maranges est vraiment devant nous.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça reste tout de même la côte de Beaune? Alors qu'on décroche quand même de cette côte de Beaune.
On décroche de cette côte de Beaune, légèrement. Hein, c'est quand même pas. Parce qu'après. Une fois passé la côte de Beaune, on est sur la côte chalonnaise. Mais la côte chalonnaise, on est sur la plaine de Saône. Nous, on est quand même très éloigné. La côte chalonnaise, elle est vraiment derrière cette colline-là.
D'accord.
Avec le village de Bouzeron qui commence la côte chalonnaise, Ruilly, Mercurey, etc. On a des terroirs distincts. Là, on a une carte géologique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de couleurs différentes en fonction du type de sol.
Ah oui, je vois, jurassique, plutonique.
Donc ça, ce sont des niveaux géologiques. Donc là, on parle de millions et de millions d'années. Pour faire simple, c'est argilo-calcaire, mais pas que. On est un vignoble assez tardif. On vendange souvent plus tard que les autres appellations de la côte de Beaune.
Vous êtes entre la côte de Beaune et l'autre côte, finalement.
Oui, exactement.
C'est ça.
Les Maranges, ils sont exposés sud-sud-est, on va dire. Les hautes côtes, moi, personnellement, j'ai des parcelles. Elles sont exposées vraiment plein sud.
Nouvelle confirmation de la définition hyper millimétrée des terroirs bourguignons.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tchou Picard. Annick Bonhomme.
Quelle qualité doit avoir un sportif de haut niveau ?
Des forces, des muscles, manger sain
et beaucoup boire.
Il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner pour faire le sport qu'on veut.
Pour faire marcher ses muscles.
On s'entraîne beaucoup, genre on fait de la muscule, prendre des poids de genre 40 kg sur ses bras et tenir le plus longtemps
pour avoir des muscles.
Et vous connaissez des sportifs de haut niveau?
Oui. Cristiano Ronaldo,
Teddy Riner, Kylian Mbappé,
Lionel Messi,
Léon Marchand,
Félix Lebrun et Alexis Lebrun.
Et ils faisaient quoi eux?
Du ping-pong.
Vous les avez regardés pendant les JO?
Oui, de temps en temps.
Moi, je les ai pas regardés, mais
j'ai vu surtout.
J'ai vu juste Teddy Riner parce que j'aime bien karaté, mais j'ai arrêté.
Moi, j'ai vu beaucoup plus de fois Léon Marchand, même si je préfère beaucoup plus le ping-pong. Il faisait vraiment des trucs magnifiques.
Will Bayama, je crois, pour la France, le basketteur. Et après, il y avait un Américain. Après, je sais pas comment on l'appelle, mais ma belle-mère, elle avait crié le King. Mais je crois pas que c'est son prénom.
Est-ce que vous aimeriez être un sportif ou une sportive de haut niveau, vous?
Oui.
Non.
Parce que ça demande trop d'exercice.
Faire de la piscine, j'aime bien. Ça fait marcher les bras, les jambes en même temps. Et ça demande beaucoup d'entraînement, du coup j'adore.
Moi, oui, parce que j'aimerais bien faire beaucoup de ping-pong. Parce que c'est mon sport préféré. Et Félix Lebrun, il m'a donné un bon coup d'énergie. Maintenant, j'en fais un club et voilà.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici de Romardèche.
Circuit court aujourd'hui au cœur du village de Roiffieux où l'on va se régaler avec Noémie Marron de l'atelier du père Marron.
Nous sommes donc dans un vieux bâtiment qui date d'après une pierre gravée sur la façade de 1612. C'était en fait l'ancien entrepôt du boulanger du village puisque mon papa est natif de Roiffieux. Donc ici nous sommes un atelier de transformation de fruits. Notre objectif c'est de décliner le fruit sous plusieurs formes. Donc on a commencé avec la confiture, on fait maintenant des pâtes de fruits et on aimerait faire à terme encore plus de déclinaisons. Ça peut être de la compote, des coulis, des sorbets, enfin voilà. Avec un cahier des charges extrêmement exigeant et qui ne bougera pas, qui correspond en fait tout simplement à nos valeurs, que des fruits français qu'on va chercher en direct chez les producteurs, des variétés dites, dans le monde du fruit on dit premium, donc ça veut dire très qualitative, très gustative, et le tout très peu cuit et peu sucré. L'idée c'est à chaque fois à travers nos produits d'avoir l'impression de manger le fruit cru. C'est un substitut en fait lorsque le fruit n'est pas de saison.
Et ici on est confiturier de père en fille, Christian le papa et Noémie sa fille, associés dans cette belle aventure gourmande depuis 2024 dans l'atelier du père Marron, mais depuis toujours à la maison pour régaler les épicurieux avec une vingtaine de parfums de confiture extra.
Donc la gamme Corse, ce sont la clémentine de Corse, le pommelot de Corse et le citron Corse, une confiture d'ailleurs très rare à trouver. Une gamme réunionnaise avec l'ananas Victoria et la mangue José. Et ensuite on a les classiques et en plus original on va dire, mais extra local, on va avoir tout ce qui est poire, qui est vraiment une belle découverte parce que c'est un fruit extrêmement classique mais rarement transformé. La pêche de vigne, les fruits sauvages, donc mûres, myrtille ainsi que cynorhodon. Et puis j'y tiens, c'est très important, on ne fait pas de crème de marron, on fait de la confiture de châtaigne. La différence, elle est majeure à notre sens. On fait des choses très haut de gamme, mais on veut quand même rester sur de l'abordable. Nous, on va vraiment être sur de la retranscription du fruit. Ce qui fait qu'on n'aura jamais d'assemblage de plusieurs fruits ou d'épices. Et dans la crème de marron ou confiture de châtaigne, nous, on va se différencier parce qu'on ne met pas de vanille, on met moins de sucre. Ce qui fait que ça fait beaucoup plus châtaigne à tartiner. En fait, nous, notre principe, c'est de se dire, quand un fruit est excellemment bon, il se suffit à lui-même et il n'a pas besoin de rajout, d'exhausteur de goût, que sais-je, pour être savoureux.
Et alors, avec ce même savoir-faire, Noémie et Christian confectionnent également des pâtes de fruits savoureuses.
Alors, les pâtes de fruits, c'est vrai que ça a été un grand enjeu, puisqu'en fait, ce qui se faisait sur le marché, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais on était quand même sur des produits extrêmement sucrés qui n'avaient de fruits que le nom dans pâtes de fruits. Et donc là, c'était un vrai challenge parce qu'il fallait que la texture suive. Donc, ça nous a mis vraiment des mois et des mois pour trouver le juste équilibre. Mais on est extrêmement fiers de ce produit-là. On voit qu'il a beaucoup de succès parce qu'effectivement, on fait une pâte de fruits, plus de 50% de fruits, avec cette espèce de trompe-l'œil qui fait qu'on a l'impression de manger le fruit. Et certains, d'ailleurs, clients pensaient que c'était un fruit confit tellement qu'il ressemblait à la clémentine, par exemple.
Donc, vous l'avez compris, dans l'atelier du père Marron, on fait vraiment tout artisanalement et le plus souvent possible, donc en circuit court.
On essaye vraiment toujours d'être extrêmement local. local. Après, il s'avère qu'on est dans une région très limitrophe avec la Drôme et l'Isère. Donc, des fois, il est plus local d'aller en Drôme-Isère que dans le sud de l'Ardèche, par exemple. On travaille avec une bonne vingtaine de producteurs et aussi des cueilleurs. Les cueilleurs, c'est quand vous voulez, où vous voulez, il n'y a aucun problème. On est vraiment à la recherche de ce savoir-faire. Donc, on le fait pour la mûre sauvage et le cidredon. On a la chance d'être dans une région où il y en a plein. Il n'y a pas de mal à les trouver. Par contre, un peu plus de mal à les cueillir.
Donc, l'appel est lancé. Si ça vous intéresse, rapprochez-vous de Noémie et de l'atelier du Père Marron à Roiffieux. Vous retrouvez leurs confitures et pâtes de fruits dans certaines épiceries fines, chez certains restaurateurs également, notamment les maisons Marcon, ou directement ici à l'atelier boutique à Roiffieux, où Noémie se fera un grand plaisir de vous faire déguster ses douceurs.
Ici, actu locale, musique et bonne humeur.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
La nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Azure.
Ce matin, on a rendez-vous avec un Caulois, il s'appelle Éric Castet, et avec sa femme Juliette, ils ont intégré il y a quelques années l'organisation internationale JRS, c'est Jesuit Refugee Service Welcome. Il s'agit en fait de réseaux de familles qui mettent à l'abri des migrants le temps de leur régularisation pour éviter qu'ils dorment à la rue, avec tout ce que ça comprend évidemment. Alia Zegaoula a rencontré Éric, qui se décrit d'abord en trois mots.
Déterminé, ça c'est sûr. Déterminé, deux choix, ça compte. Optimiste. On a l'impression de que notre action est une goutte d'eau dans l'océan des souffrances. Il y en a une, toute sa famille a été massacrée. Elle est venue à pied, elle a traversée du désert, en prison, en Libye, esclavage, viol. Des fois, ils abandonnent leur famille. Ça nous oblige à faire un peu de géopolitique, à comprendre ce qui se passe dans les autres pays. On a l'impression de toucher à l'essentiel. Et pendant 6 mois, nous accueillons Myriam. C'est une magnifique aventure à plusieurs titres. D'abord, la rencontre de ces gens qui vivent toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Vraiment toutes.
Qu'est-ce que vous en retirez de ces rencontres que vous n'auriez sans doute pas faites sans ce réseau ?
Bon, moi, ça a été un choc. Il y avait des préjugés sur les religions et les coutumes. Moi, je vais parler franchement. On a accueilli une femme qui a vécu toutes les horreurs, mais qui a un rayon de soleil. Et grâce à sa foi, qui n'est pas la mienne, qui est foi musulmane, et je découvre que sa foi lui permet de faire triompher la joie. J'étais très touché par la capacité de résilience.
Au-delà de ces semaines passées ensemble, est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles de ces personnes accueillies auparavant ?
Oui, il y en a qui reviennent nous voir, il y en a qui ont réussi à s'installer, qui ont réussi vraiment à se régulariser, à trouver du travail. Elles viennent voir maman Juliette, papa Eric.
Est-ce que vous diriez que ça vous a davantage encore ouvert à l'autre ?
Merci pour la question. Je suis ouvert à l'autre. Mais jusqu'à quel point je consacre du temps à celui qui est en face de moi ? Jusqu'à quel point je le considère ? Je peux faire distraitement en pilotage automatique, mais quand la personne est en face de moi, est-ce que j'ai l'impression de perdre mon temps ou est-ce qu'au contraire, je considère que chérir la personne qui est en face de moi est peut-être l'action la plus directe pour la paix ? C'est la question que je me suis posée. Évidemment, je suis très occupé, mais quand j'ai pris du temps pour apprendre à Myriam à faire de la trottinette et du vélo, je me disais, Eric, t'as tellement de choses à faire, mais en fait, non, non. À la fois, c'est un investissement et à la fois, moi-même, je suis bouleversé par ce qui se joue, quoi. Il y a quelques mois, il y avait les 10 ans de JRS Welcome. Je sais pas combien de personnes mises à l'abri dans le 06 étaient réunies et sur l'estrade, quand il y a eu la trentaine de migrants 10 ans après, c'était séquence émotion. Vraiment, des gens magnifiques, des témoignages, c'est un grand mouvement d'humanité.
À ceux qui osent pas ou ceux qui se disent c'est trop compliqué, vous direz quoi ?
Bah, c'est cette fameuse parabole de l'homme qui marche au bord de la mer et qui jette à la mer toutes les étoiles de mer qui sont sur la plage. Et un autre lui dit, mais tu te rends compte, il y en a des milliers. C'est complètement vain. Il a dit oui, c'est vain, mais pour celles que je mets à l'eau, ça change tout, c'est leur vie qui en veut. Donc, de voir des existences sauvées, entre guillemets, quand je dis des existences, c'est parce que ces jeunes sont des futurs parents, j'espère, et c'est pas juste une personne, c'est une lignée. Enfin voilà, c'est des vies dans leur durée qui sont modifiées. Se soucier d'une personne, il faut commencer par ça, quoi. Voilà, voilà où j'en suis de mes réflexions, de ce que je reçois en faisant ça.
Ah, le portrait très fort et émouvant hein, d'Éric Castet, toutes ces infos que vous retrouvez sur ici.fr.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici, Berry.
Quand il bat fromer le thé au lapin, il faudrait pas qu'il se sauve.
Berrichon dans le texte.
Un thé, c'est un toit, un abri, où qu'on renferme les bestiaux pour qu'ils soient bien à l'abri de la pluie, des renards, et puis dans le temps des loups. Allez donc savoir pourquoi qu'on parle du thé au lapin, du thé au chef, du thé au cochon, puis quasiment jamais du thé aux ouailles, aux poules, aux vaches ou aux chevaux. Une histoire de thé qui se raconte dans le pays fort. Avant que je vous la raconte, faut juste savoir que quand ils boivent une tisane, ils disent pas, par exemple, boire du tilleul, mais boire sur le tilleul. Logique, on boit l'eau qui a passé sur les plantes. Alors c'est l'histoire d'un pourvieux qui avait mal au ventre. Il s'en va voir la guérisseuse, elle la regarde, puis elle y dit « Va avec 40 et chevaux, puis boire sur le thé. » Il connaissait pas ça, le thé. Ça fait qu'il retourne chez eux, puis le v'là qui dioche sur le thé au cochon en qu'une chopine de jus de poume. Adam, il a attrapé la fouère, mais il avait plus mal au ventre. Comme quoi, il y a que la fouette qui saute. Quand on était jeune, le samedi soir, on allait chez les uns ou chez les autres pour fêter les anniversaires. Chez nous, il y avait deux autos. Une 404 puis une camionnette. Oh mon pas, il voulait bien nous prêter la grosse auto quand que c'est qu'il en avait pas besoin. Sinon, on prenait la camionnette ou que c'est qu'on s'entassait. Et puis dame, on rigolait. Sauf une drôlière qu'elle appelait ça le thé au chiev. Puis qu'elle voulait pas y monter. Ça fait qu'une fois, elle est à la fête en vélo. À 15 km. Adam, quand elle est arrivée, on avait fini de manger le gâteau. Puis c'était quasiment l'heure de repartir. Eh ben vous me créerez si vous voulez, mais pour le retour, à la bas vous le qu'on les ramène et les pisse en vélo dans le thé à chiev.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Alsace.
Chaque année, près de 800 000 personnes montent sur un bateau à Strasbourg, soit plus de la population entière de Marseille qui ferait la queue pour voir la petite France. Aujourd'hui, je teste pour vous les coulisses de Bateaurama. On est bien évidemment à Strasbourg, embarcadère du Palais Rohan. Et il est tôt, il est très tôt. Hein. La ville s'éveille tout doucement et je monte à bord d'une navette Bateaurama avec Dylan et les capitaines. Autour de nous, l'île est particulièrement silencieuse et on entend juste les clapotis de l'eau contre la coque. Pendant que les premiers touristes dorment encore, eh bien, l'équipage lui prépare déjà la journée. J'ai comme l'impression que je vais prendre part au spectacle que je vois défiler tous les jours devant les fenêtres des studios d'ICI Alsace. Et une fois à bord de la navette, direction le port du Rhin, dans les locaux techniques de Bateaurama. Avant même qu'un touriste monte à bord, les bateaux passent par une vérification technique complète. Et Dylan m'explique que chaque navette est contrôlée quotidiennement. Hein, les niveaux, la sécurité, les systèmes électroniques. Normal, on peut transporter jusqu'à 135 passagers par bateau. En fait, Bateaurama appartient au port autonome de Strasbourg. C'est le deuxième port fluvial français. Et à l'origine, les visites servaient surtout à montrer la puissance industrielle du port aux investisseurs. C'était pas vraiment pour les touristes. Aujourd'hui, la visite dure environ 1h10. Et on traverse la petite France, la Neustadt et le quartier européen. Et selon le capitaine, la difficulté principale, c'est de réussir à anticiper d'une part le courant, mais aussi les écluses et les autres embarcations. Hein, dans un espace, il faut le dire, relativement petit. Et ça prend pas mal d'entraînement pour réussir à passer un aussi long bateau sous les ponts de Strasbourg. Et moi, je me fais trimballer et je dois avouer que depuis l'avant du bateau, la ville est encore plus belle. On voit les rues et les façades des bâtiments complètement autrement. J'ai adoré ça. Aujourd'hui, la flotte compte une dizaine de bateaux. Parce que oui, il y a du monde. Et pour gérer l'afflux des visiteurs, j'ai rencontré Lucie. Lucie, elle est agent de quai. Et elle m'explique que ce sont plusieurs centaines de personnes par heure qui montent et descendent des navettes en haute saison. Et le timing est super précis, parce qu'un bateau part environ toutes les 30 minutes. Alors moi, pour montrer ma bonne volonté, j'ai tenté d'aider à amarrer le bateau. C'était une mauvaise idée. J'ai tiré la corde, mais dans le mauvais sens. Bref, le bateau ne bougeait absolument pas, mais ça a eu le mérite quand même de lancer un fou rire général. Bon, le capitaine m'a même dit que ça arrivait aussi aux marins. Bon, je me dis qu'à travers ça, je viens d'être officiellement adopté par la marine alsacienne. Youhou ! En tout cas, je réalise que derrière l'image romantique des bateaux qui défilent tranquillement le long de l'île, se cache surtout une organisation quasi aéronautique. Car finalement, Strasbourg, vu d'en haut, c'est sûr, c'est beau, mais vu d'en bas, depuis l'eau, c'est encore plus beau. Ici.
Je croule, quel triste adage.
La nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici, Pays de Savoie.
Les petits bonheurs, généralement, ce sont des sourires qui se récoltent tous les jours au hasard des rencontres. Il suffit d'un micro ici, de ne surtout pas prendre de rendez-vous et de ne pas se présenter. Ça marche très bien à Megève, par exemple. Nous sommes donc en Haute-Savoie, sur les hauteurs de Megève, au Mont d'Arbois, pendant que des chevaux sont en train de monter dans une bétaillère.
Bonjour.
Matin de bonheur, venez vous occuper des bêtes.
C'est ça, on vient les mettre au chaud, ouais.
Ah, c'est-à-dire que là, ils quittent la montagne?
Ouais, ce coup-ci, ouais, c'est bon. Ce coup-ci, on va les ramener, on va les mettre en pension pour cet hiver, ouais. Ils ont passé tout l'été en montagne, donc ce coup-ci, ça y est. Ils vont les se mettre au chaud pour l'hiver.
Ah oui, ils font toute la saison,
là,
ici?
Ouais, ouais, ceux-là, ils font toute la saison ici. Il y en a qui sont là pour la monte, il y en a qui sont là pour l'attelage, et puis vu que nous, on est élevage, il y en a, ils sont juste là pour grandir.
Vous, c'est pas juste un loisir, c'est votre métier?
Ouais, ouais, moi, c'est mon métier, ouais. Je suis cocher palefrenier. Ouais.
Quand vous dites pour l'attelage, c'est les calèches qu'on peut voir à Megève, par exemple?
Exactement, c'est ça.
Donc, les chevaux, quand ils sont pas attelés, on les voit ici, sur les hauteurs de Megève?
Ouais, c'est ça. Nous, on en a à l'Alpette, comme là en face, en haut de la côte 2000. On en a aussi au Mont d'Arbois, là, juste derrière. Et puis, après, au fur et à mesure de la saison, on les fait descendre petit à petit. Puis là, ils atteignent leur point le plus bas sur Megève. Puis après, on les change de département, et puis voilà.
Donc là, ils montent dans le bus?
C'est ça, ouais. Ils montent dans le bus, là, je vais en mettre 4. Là, après, j'ai mon patron qui va arriver, il va prendre le reste, et puis après, on va prendre un camion et une remorque, puis on y charge tout dedans, puis lui, il part cet après-midi.
Et là, ils partent où, hein, en résidence d'hiver?
Ils partent dans l'Allier, ceux-là. Ils partent dans l'Allier. Ils ont des gros champs de plusieurs hectares où c'est qu'ils ont du foin, des abris pour eux, de l'eau à volonté, puis voilà.
L'Allier, donc en Auvergne, si je ne m'abuse, il fait pas beaucoup plus chaud qu'ici l'hiver.
Non, non, il fait pas beaucoup plus chaud, mais par contre, ils auront plus d'herbe qu'ici, on va dire. Ils auront moins de neige, ils auront un peu plus de foin, un peu plus d'eau, parce que nous, ici, c'est qu'on est tout de suite dans la neige, et puis nous, on n'a pas assez de foin pour tous les nourrir l'hiver, donc on préfère les mettre en pension. C'est beaucoup plus agréable pour eux. Puis, pour nous, l'hiver, on a déjà bien assez de boulot comme ça, donc au moins, ils sont un peu tranquilles aussi de leur côté.
Alors justement, vous faites quoi l'hiver si vous avez plus de chevaux?
Alors c'est pas qu'on en a plus, c'est qu'on en a moins. Toute la partie élevage en fait part tout en pension, et en fait l'hiver nous on fait énormément de calèches sur Megève. On a des grosses calèches qui montent jusqu'à 12 personnes. C'est qu'on fait les fondus en calèche en soirée ou midi, et on fait juste des balades en calèche.
Bon, vous, j'imagine que le cheval c'est une passion, on fait pas ce métier là par hasard.
Mon grand-père était déjà éleveur de chevaux, là maintenant je bosse chez un ami de mon grand-père. Puis voilà, après on fait ça par passion, de toute façon c'est pas par l'argent qu'on va le faire, hein, comme dans tout métier agricole.
Même à Megève?
Même à Megève, l'agricole, ça reste l'agricole, à Megève ou pas.
Je peux vous demander votre prénom?
Moi, c'est Mathieu, moi.
Et c'est quoi le dernier petit bonheur de Mathieu, s'il vous plaît?
Mon dernier petit bonheur, c'est d'avoir fait un galop sur les crêtes de la côte 2000 en plein été avec le soleil couchant. Et ça, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à ma mort.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Cotentin.
Quand il y a des prédateurs, mais sa tête dans sable, au moins ils disent que c'est un pot avec des roses qui dépassent.
Pourquoi l'autruche met de temps en temps sa tête dans le sable?
Pour peut-être manger les bêtes dans le sable.
Pour manger ce qui est dans le sable, pour tout simplement voir ce qu'il y a dans le sable.
Pour dormir.
Si elle veut voir ce qu'il y a dans le sable et qu'elle met sa tête dans le sable, elle voit plus rien.
Peut-être qu'elle résiste au sable.
Ou alors elle a une frontale.
Je pense pas.
C'est peut-être pour manger ce qui est dans le sable, mais plus profondément avec sa bouche.
Quand il y a des prédateurs, met sa tête dans le sable. Au moins ils disent que c'est un pot avec des roses qui dépassent.
Oh, les jolies fleurs!
Comme ça, elle voit pas ce qui se passe autour et elle a plus peur.
Qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vous court après?
Courir. Dire à quelqu'un qu'on a besoin d'aide.
Tu vas pas mettre ta tête dans le sable?
Non, sinon il peut nous attraper facilement.
Ou alors sinon on lui met un coup de poing dans la figure, au moins c'est lui qui a la tête dans le sable et nous on s'en va.
Mais pour l'autruche alors, elle?
Pour l'autruche c'est facile, elle court plus vite que nous.
Et vous savez, comment on fait des petits autruches?
Une fois qu'ils sont dans l'œuf, bah, ils cassent la coquille, ils sortent.
Donc c'est avec des œufs?
Bah oui.
Vous avez déjà vu un œuf d'autruche?
J'ai cru en voir un en vidéo, mais non. Comme les œufs normaux, mais quand même un peu plus gros.
Oh, plus ils sont gros, plus les œufs.
Bah, l'œuf, j'en ai déjà vu, mais pas en vrai. L'œuf, il est gros comme ça.
Il est en effet très gros. Comment est-ce qu'on peut avoir une poêle suffisamment grande pour faire un œuf au plat d'autruche?
Tu fabriques soit une grande poêle ou...
Non, pas la poêle à frire!
Soit t'essaies de trouver une grande poêle, bah comme ça, c'est bien. On a des poêles grandes, mais ça suffit, des poêles comme ça, ça suffit.
Ou alors on le fait tout simplement pas cuire, on les laisse vivre.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Brésil.
Salut Brésil.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Je m'appelle Jérémy Thierry.
C'est quoi ses prénoms? Qui s'appelle comme ça?
C'est Jérémy.
Tu as quel âge, mon grand?
J'ai 34 ans et je suis chocolatier glacier.
Bah, c'est super, c'est ce que tu voulais. Tiens, je t'ai amené un peu de glace, mûre pistache.
Et je suis dans les petits bonheurs.
On va se régaler.
Il va manger.
Ta maison?
Je suis de la forêt Fouesnant, je vis à la forêt Fouesnant, j'ai grandi à la forêt Fouesnant, j'étais à l'école à la forêt Fouesnant.
C'est bon, on a compris.
Et si j'avais à la caractériser, c'est la mer forcément. C'est une commune du littoral avec un des plus gros ports de...
De quoi?
Plus gros ports de plaisance de la région.
Ah ouais?
Donc on y passe beaucoup de temps.
Et le temps, c'est de l'argent aussi.
Il y a beaucoup de boulot aussi à la forêt Fouesnant, donc on n'a pas trop le temps d'en profiter, mais il y a les Glélans. L'archipel des Glélans. On y passe souvent des vacances, des week-ends, des soirées, histoire de décompresser après des journées compliquées au boulot. On a de la chance d'avoir un petit paradis comme ça à 30 minutes de navigation de la côte.
C'est un endroit magnifique.
Allez, on va se balader.
Mon coin préféré quand je me balade, c'est le lac de Guerre-les-Dents. Il y a plein de petites balades sympas à faire au départ de Guerre, où il y a une station nautique, une base nautique avec de quoi faire du pédalo.
En pédalo, mais c'est vrai que c'est pas tellement la saison pour faire du pédalo.
Et une petite plage de sable blanc, voilà, il y a des restos, des bars, je trouve ça sympa, ça nous évade un peu. D'autant plus quand il est vidé, ça n'arrive pas souvent, mais on peut découvrir ce paysage lunaire et puis les maisons qui ont été ensevelies par les eaux. Qui sont découvertes.
Ça se passe sur la Lune, tout ça?
Quand tu marches dessus, le sol est souple, et puis ça fait des grands cratères comme si on était sur la Lune, quoi.
Tu veux voir mon coucher de soleil?
Non, sans blague, c'est pas la peine.
Ce matin, exercice d'expression orale.
L'expression bretonne que j'utilise et dont j'ai été martelé, mon grand-père le disait souvent, non dégueu.
Mais du rythme, du mouvement, mais t'es si bon paillou, dans ta gueule.
Non dégueu.
Pas un gueu, j'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueu, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui un gueu,
Et en général, quand il disait ça, fallait courir. Allez, salut.
Allez, bonne santé, les gueux.
Local, musique et bonne humeur.
Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such. I pretend too much. I'm lonely. like a crown.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Et Olivier, ce matin, retourne à l'école primaire aujourd'hui.
Eh oui, et pour y trouver du gaga. Mais blé, je voudrais aujourd'hui vous parler du mémoire de Judith Boucher, réalisé l'an dernier à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, et qui s'intéresse à une question rarement étudiée. Comment le parler stéphanois, le gaga, circule encore aujourd'hui dans les écoles primaires, et dans quelle mesure le parler des enseignants influence le parler des élèves? Son travail porte sur toutes les classes de l'école primaire, en milieu urbain comme en milieu rural. Judith a formulé trois hypothèses. Premièrement, le gaga serait peu utilisé par les enseignants en situation d'enseignement. Deuxièmement, lorsque les enseignants l'utilisent, les élèves auraient tendance à le reprendre. Et troisièmement, le gaga serait plus présent dans les écoles rurales que dans les écoles urbaines. Pour répondre à ces questions, elle a observé des classes, mené des entretiens avec les enseignants et avec les élèves, et elle a mené des observations dans les temps informels à l'école. Son analyse porte à la fois sur le vocabulaire gaga et sur des structures spécifiques comme le pronom neutre Y, employé comme complément direct, j'y ai fait, l'inversion des pronoms personnels après un impératif, donne-moi-le au lieu de donne-le-moi, ce qui nous vient du patois, hein, puisque Pierre Duplet écrivait déjà en 1896 à l'inverse du français, quand un verbe à l'impératif a deux pronoms pour complément, l'un direct, l'autre indirect, c'est ce dernier qui s'énonce en premier. Exemple en patois, « by my loup ». Et puis aussi la formation d'adjectifs à partir de participes passés. Il est trempe de chaud, ses joussons enflent, la reloge est arrête. Donc qu'en est-il des résultats du travail de Judith? Les observations révèlent une situation un peu plus nuancée que ce qu'elle attendait. Très surprenant, 54% des enseignants utilisent au moins une fois un régionalisme en cours au cours des séances observées. Un élève sur 6 emploie spontanément un mot ou une expression gaga lors des entretiens. Et dans les classes, un régionalisme apparaît dans 20% des situations que Judith observe. Il semblerait donc que le gaga soit encore bien présent dans nos écoles. Mais quels sont les mots, les expressions, les tournures qui ressortent le plus, ou plutôt qui ressortent le mieux? Un peu de patience les amis, la suite c'est pour bientôt.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Isère.
Révolutionner un domaine, ça tient à pas grand chose. Et le destin de l'Isérois dont on va parler en est peut-être le meilleur exemple. Adolphe Pégou vient au monde le 13 juin 1889 à Montferrat, à côté du lac de Paladru, dans une famille d'agriculteurs.
Paysans, c'est dégueulasse!
Mais labourer des champs, s'occuper des semailles, c'est pas le projet pour Adolphe. Dès qu'il a 18 ans, bye bye la ferme, bonjour la grande muette, il s'engage dans l'armée et c'est là qu'il va faire une découverte qui va changer sa vie, le pilotage aérien. Revenu à la vie civile, Adolphe Pégou ne chôme pas. En moins d'un mois, il passe du statut de débutant à l'obtention du brevet de pilote.
Vous avez fait à 4G un piqué inversé avec un MiG-28.
D'ailleurs, un mois, c'est encore le temps qu'il lui faudra pour être embauché comme pilote d'essai par Louis Blériot, l'une des références de cet univers à l'époque.
Waouh ! Tout le monde se calme !
Mais Adolphe ne va pas s'arrêter là. C'est un enchaînement de premières qui va faire sa légende. Parce que le 19 août 1913, première, il est le premier pilote à sauter en parachute.
Hey Adolphe, on pensait t'attacher un gros drap dans le dos pour que tu sautes d'un avion qui pourtant fonctionne très bien en plein vol. Qu'est-ce que t'en penses?
Et alors que la descente se fait tranquillement, il observe son avion qui descend tout seul. Sans personne aux commandes, Pégou voit son appareil faire des figures qu'il n'a jamais vues de sa vie. Sa première pensée, c'est de se dire
« C'est de toute beauté !»
Et la seconde, mais des manœuvres comme ça, ça pourrait permettre à un pilote de se sortir de situations désespérées. Une réflexion qu'il va mettre en application un mois plus tard, c'est décidément une constante, en réalisant le premier vol tête en bas de l'histoire. 400 mètres, la margoulette inversée, et devant son patron, Louis Blériot.
Quelle histoire, ça aussi.
Le 21 septembre 1913, moins d'un mois après cette performance, le bougre accélère. Adolphe Pégou réalise cette fois tout un programme de figures acrobatiques qui se termine par le désormais célèbre loupé.
Attends que je t'explique mon idée, enfin.
Adolphe Pégou est-il le premier à l'avoir réalisé? Les historiens n'arrivent pas à trancher entre lui et le russe Piotr Nesterov, mais ça n'empêchera pas la légende de l'Isérois de naître à ce moment.
Impeccable, non?
Toute la presse relate sa démonstration. Il est demandé de partout, en Europe, en Russie, même en Allemagne, où on est normalement pas très fan des Français à l'époque. Cette star de la voltige se produit devant parfois des dizaines de milliers de personnes. Et alors que les États-Unis réclament aussi de voir Adolphe dans leurs cieux, la Première Guerre mondiale éclate. Adolphe Pégou est affecté au 2e groupe d'aviation de Reims et rapidement, le professionnel des acrobaties aériennes utilise son savoir-faire pour s'imposer dans les airs. Premier pilote à remporter 5 combats aériens de l'histoire, Adolphe Pégou devient donc le premier as de l'histoire de l'armée française.
Et Verboten aussi.
Pégou, pionnier, jusqu'au bout. Sa légende prendra fin le 31 août 1915. Il rencontre dans le ciel Otto Kandulski, l'un de ses anciens élèves et pilotes allemands, là-bas dans les airs, pas loin de Belfort. L'aviateur germain et son mitrailleur lui rendront hommage quelques jours plus tard en déposant une couronne de fleurs ornée de l'inscription « À Pégou, mort en héros pour sa patrie ». Ses inventions ne furent pas suffisantes pour lui sauver la vie. Adolphe Pégou, le pionnier de la voltige aérienne, est un Isérois, illustre Isérois.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Gascogne.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Liebus, j'ai 49 ans et j'ai créé le Gorafi. C'est un site satirique qui existe depuis 2012.
D'où est venue l'idée de créer ce site?
Alors, il y a plusieurs influences, il y a les influences de Pierre Dac, par exemple avec le Samuel, il y a l'influence des nuls, il y a une influence américaine avec The Onion, qui est un peu l'équivalent du Gorafi aux États-Unis, qui existe depuis 1989. Et ce style d'écriture du Gorafi, c'est une écriture qui est très anglo-saxonne, un petit peu référencée, et qui n'est pas un humour, on va dire, potache, où la blague doit apparaître du premier coup, doit être visible. Moi, j'aime bien travailler une blague qui demande à être relue plusieurs fois, à être appréciée, et c'est un peu un jeu de clin d'œil avec le lecteur. Et on va reprendre le titre de presse, mais on va en garder la musicalité, et on va changer une lettre, on va changer un mot, on va inverser le sujet. Il y a toujours ce côté pompeux, solennel. Il faut que le côté sérieux écrase la blague. Il ne faut pas qu'elle soit visible. La réalité a toujours été déjà plus stupide que le Gorafi. Et nous, en fait, on se contente de surligner cette stupidité. Depuis 14 ans, on a fait quelque chose comme 9000 articles du Gorafi. Donc, il faut réussir à chaque fois à surprendre les gens qui nous lisent et les gens qui nous ont découvert hier. Donc ça, c'est un gros challenge. On est une quinzaine d'auteurs au Gorafi. C'est surtout des gens qui ont une expérience en écriture, en comédie. Ils sont pour la plupart des stand-uppers, ils écrivent des textes pour des comédiens. Donc ils ont vraiment une connaissance de cet univers-là. On fait 2 conférences de rédaction par semaine. On va traiter entre 200 et 250 idées par conférence de rédaction, dans lesquelles on va en choisir 10%. Notre but, c'est pas de piéger les gens, de mentir aux gens. L'article satirique Gorafi, il a le même principe que le dessin de presse. C'est faire rire, réfléchir, réagir. Nous, on utilise très peu l'IA, par exemple pour les illustrations, parce qu'on s'est rendu compte que nos lecteurs avaient du mal à apprécier l'article avec une photo faite en IA. Donc nous, on a un regard très critique sur la question. Il faut faire aussi attention à la manière dont on utilise ces outils. De manière générale, on voit que les algorithmes sont manipulables à souhait. Les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, des fois, notre page peuvent disparaître de leur timeline. C'est tout cet ensemble de causes et effets qui nous a contraints et même motivés à passer à une version papier. Parce que le papier ne ment jamais. Vous avez la vraie presse qui souffre. Je vous encourage, continuez à acheter des journaux papier, soutenez votre presse locale, c'est important. Et paradoxalement, la presse satirique, elle a le vent en poupe.
Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous avez des racines landaises.
Oui, je suis né à Bordeaux, mais mes parents vivent dans les Landes depuis la fin des années 80. Donc j'ai vécu à Aunay-et-Lahari, puis à Morsens, et j'ai fait mes études de lycée à Bayonne, avant de finir mes études de cinéma, après à Bordeaux. Et entre-temps, j'ai fait aussi mon collège à Saint-Vincent-de-Paul. J'ai vraiment parcouru les Landes en long et en travers, et j'ai toujours écrit au collège, au lycée, je leur lisais des cahiers, mais professeurs ne comprenaient pas ce que je faisais. Ils étaient un peu accablés parce que je ne faisais pas mes devoirs et j'étais plus passionné par l'écriture. Quand j'étais gamin, je m'amusais à découper des articles de Sud-Ouest et à les mettre dans un petit cahier. Alors aujourd'hui, quand je regarde ces cahiers, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai sélectionné tel ou tel article, mais j'avais cet amour de la presse. Aucun d'entre nous au Gorafi ne savait comment on fait un journal.
Vous avez fait des études de cinéma d'ailleurs.
Voilà, moi j'ai suivi des études de cinéma à Bayonne, à René Cassin, ensuite à Bordeaux 3, donc en art du spectacle, option cinéma et tout. Donc j'ai appris à raconter des histoires.
Sébastien, le fondateur du Gorafi, on a un petit défi, c'est que vous devez me donner le nom de la radio qui vous a passé le micro.
Ici Gascogne, j'ai des souvenirs d'enfance bercés par cette radio.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Béarn Bigorre.
Bonjour, c'est Thierry Sagardeuilto. Si vous êtes un fidèle d'Affaires classées, il y a sans doute un épisode que vous avez préféré, une histoire qui vous a particulièrement marqué. Venez nous le dire en nous laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Tous vos messages sont les bienvenus. Bonne écoute.
Affaires classées sur France Bleu Béarn Bigorre.
Sur France Bleu.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Affaires classées, le podcast. Nous sommes au printemps 1824. Une vieille dame habitant Saint-Faust est jetée vivante sur un bûcher. Des villageois l'accusent en effet d'être une sorcière qui jetterait des sorts maléfiques sur la population. Que cache ce fait divers digne d'un autre temps ? La suite dans un instant.
France Bleu, Affaires classées. Thierry Sagardeuilto.
Nous sommes en l'an 1824. Au matin du 29 avril, le préfet des Basses-Pyrénées est de fort mauvaise humeur. Il vient d'apprendre qu'à 8 km de son palais, dans le village de Saint-Faust, une vieille dame connue sous le nom de Marie Payon a bien failli périr brûlée sur un bûcher improvisé par un groupe d'individus au prétexte qu'elle serait une sorcière. Des villageois se sont emparés d'elle afin de la ligoter. Ils ont entassé du bois, attachant la malheureuse à un pieu avant d'allumer le feu. Mais tandis que les flammes faisaient leur œuvre, elles cramèrent aussi les cordes qui entravaient les mains de la pauvre Marie, laquelle parvint à s'échapper comme elle le put. Grâce aux soins d'un médecin, elle échappa à la mort et put lentement panser ses plaies malgré d'horribles souffrances. Quelques jours plus tard, Marie songea à alerter monsieur le maire du village, pensant qu'il lui viendrait en aide en prévenant les gendarmes du crime commis sur sa commune. Que nenni ! Fort embarrassé par cette affaire d'un autre temps, l'élu commença par mener son enquête en identifiant les suspects. Dans ce village rural de quelques centaines d'âmes, les langues finirent par se délier. Les auteurs du crime ne sont autres que les membres et proches d'une famille honorablement connue à Saint-Faust. Suspectant la vieille dame de leur vouloir du mal, ils ont tenté de la supprimer par le feu. L'affaire fait tâche. Elle rappelle ces pratiques d'un autre temps, en Béarn, au Pays Basque ou en Bigorre, où l'on brûlait ces femmes que l'on taxait de sorcellerie. Le maire s'interroge. Doit-il dénoncer l'affaire ou bien l'étouffer ?
France Bleu, Affaires classées.
Selon les premiers témoignages, une fillette du village souffrant d'un mal implacable semblait vouée à une fin prochaine. Et comme souvent à l'époque, lorsque la médecine s'avérait incapable à soigner, les proches recouraient aux soins du guérisseur ou du sorcier du coin. Ça tombe bien. À Saint-Faust, les villageois racontent que Marie Payon, une vieille femme un peu marginale, aurait le pouvoir magique de guérir toutes sortes de maladies. Croyant en un miracle, les parents de la fillette implorent Marie de leur venir en aide. La vieille dame se déplace, elle examine l'enfant, et là, stupeur, elle refuse, se disant incapable de soigner ce mal sournois. L'incompréhension, la colère gagnent les parents de la fillette, prêts à payer tout ce qu'elle voudra, mais rien n'y fait. Marie refuse. Un refus qui pourrait bien lui coûter cher. Au village, la veuve Payon est surnommée la poussouère. Comprenez, celle qui connaît les poussous, autrement dit, les poisons. Aussi admirée que redoutée, elle offre, dit-on, ses potions miracles, ses breuvages mystérieux lorsque la médecine ne peut plus grand-chose. Les proches de l'enfant malade s'interrogent « Pourquoi Marie a-t-elle refusé ses soins ?» Sans doute se sentait-elle impuissante face à ce mal incurable, mais les parents meurtris ne l'entendent pas de cette oreille. À leurs yeux, son refus signifie qu'elle leur a jeté un sort. Ivre de chagrin, ils s'imaginent que la vieille veuve a pacté baptisé avec le diable. Et comme on le croyait naguère par ici, il faut brûler la sorcière afin que ses cendres chassent le mal dont la fillette souffre. Une pratique pourtant interdite par le roi Louis XIV depuis l'an 1682. Circonstances, le maire du village aurait dû alerter les gendarmes et le procureur du roi afin qu'une enquête soit ouverte et que les suspects soient identifiés, jugés et châtiés. Or, en cette année 1824, marquée par l'avènement du roi Charles X, il en ira tout autrement dans cette commune béarnaise connue pour ses coteaux de vignes, de maïs et d'apiculture. Redoutant le scandale et voulant sans doute éviter la paille de la prison aux acteurs de cette affaire honorablement connue dans le canton, l'édile de Saint-Faust va tout faire pour l'étouffer, avec de l'argent, tout bonnement. Il convainc les parents de la fillette de mettre la main dans leurs économies et lui remettre des espèces sonnantes et trébuchantes qu'il se propose de porter au chevet de Marie Payon, accompagnée du notaire de Gand. Au mépris des lois du code pénal napoléonien en vigueur depuis 1810, monsieur le maire lui met le marché en main, moyennant une somme d'argent destinée à réparer le prix de ses souffrances. La vieille dame serait bien inspirée de signer un papier officiel par lequel elle s'engage à ne pas déposer plainte contre ceux qui ont allumé les flammes du bûcher. Une transaction qui éteindrait le feu, en somme. Lorsqu'il apprend la nouvelle, le préfet palois manque de s'étrangler. Qui est donc ce maire de campagne, ce petit notable qui fait fi des lois ? Aucun élu ne doit se prêter à un tel chantage, tonne le préfet palois. Furieux, il demande au procureur du roi l'ouverture d'une enquête qui sera confiée le 2 mai aux gendarmes de l'Escar. La malheureuse Marie Payon va enfin pouvoir livrer son récit des faits aux autorités.
Affaire classée sur France Bleu.
Âgée d'une soixantaine d'années, Marie était la benjamine d'une famille nombreuse des environs. Sa vie durant, elle avait exercé le métier officiel de fileuse. Ses connaissances en matière de plantes lui ont vite valu la réputation de guérisseuse. Les témoins entendus par les gendarmes confirment qu'en mars dernier, Marie s'est présentée dans l'état le plus affreux, pieds et mains brûlés. Marie accusa spontanément les nommés Sagette, Broc, Pondac et la sœur de ce dernier d'être les auteurs de son calvaire. L'un d'eux avait d'ailleurs fui le village, redoutant sans doute d'être envoyé en prison par les gendarmes. Il revint 3 semaines plus tard, proposant sans honte, par l'entremise de monsieur le maire, ce qu'il appelait un accommodement, une sorte de transaction destinée à éteindre l'affaire. Interrogé à son tour, l'édile de Saint-Faust masque mal son embarras. Laurent Luc jure qu'il ne savait rien des raisons de ce bûcher improvisé. Marie lui aurait confié qu'elle avait été attachée à un piquet, le feu sous les pieds et sur la tête, se disant victime d'un mauvais tour. L'omerta frappe aussi un couple de vignerons qui, bien que présents près du bûcher, disent tout ignorer de l'histoire. Sur la foi des accusations de Marie Payon, les deux principaux acteurs de cet acte barbare sont identifiés et arrêtés. Le premier est un certain Jean Broc. Marié à la nièce de la victime, il est tailleur d'habits de métier. Lui nie envers et contre tout. Jamais, jure-t-il, il n'a brûlé les jambes de celle qu'il taxait naguère de sorcellerie, l'accusant d'avoir donné une maladie à une enfant par ses maléfices et ses sortilèges.
France Bleu, affaire classée.
Le second suspect se nomme Jean Pondac. Laboureur de profession, il est suspecté d'avoir planté le pieu, installé les sarments au pied de la malheureuse et d'avoir allumé le bûcher. Lui aussi nie de toutes ses forces, imaginant que nul ne croirait les dires de celle qui dit être une folle. L'enquête ira vite. 2 mois plus tard, le 28 juillet 1824, le juge d'instruction palois met Broc et Pondac en accusation du crime de tentative de meurtre sur la personne de Marie Payon. Dans son ordonnance, le magistrat écrit que la victime fut soupçonnée de sortilège par l'opinion publique parce qu'elle avait eu le tort de refuser ses soins dont chacun espérait de prompts résultats. Aux yeux des villageois, Marie fut accusée d'avoir, par ses maléfices, ses sortilèges, généré des maux qu'elle ne pouvait guérir. L'ignorance commune et les préjugés firent le reste. Les esprits s'irritèrent. Ainsi naquit l'idée de brûler une présumée sorcière. Le procès s'ouvre au Parlement de Navarre le 20 novembre 1824. L'instant est grave. L'affaire Marie Payon sera l'ultime procès palois de l'histoire où l'on parlera de sorcellerie dans un tribunal. 12 jurés venus du Pays Basque, du Béarn, et 3 magistrats vêtus de leur robe rouge et noire sont réunis pour juger 2 accusés, 2 hommes honorablement connus. Très vite, l'audience vire au calvaire, non pas pour les accusés, mais pour la victime, Marie Payon. Certes, les 2 hommes ont bien commis les faits reprochés, mais selon les juges, c'est Marie, par ses maléfices, ses sortilèges, qui a fait naître ses blessures et les a envenimées. Incroyable, la victime passe pour une simulatrice, une victime si peu innocente que la cour acquitte les 2 accusés. Ils seront libérés sur le champ.
Affaire classée sur France Bleu Béarn Bigorre.
Sur France Bleu.
Une chronique à réécouter en podcast et sur francebleu.fr.
Le malheureux destin de Marie Payon, c'était l'épisode Requiem pour une guérisseuse. Dans un prochain épisode, je vous raconterai une affaire survenue en juin 2014. Une fillette âgée de 30 mois décède d'une asphyxie soudaine dans son lit près de Saint-Jean-Pied-de-Port. Selon le médecin légiste, c'est une mort naturelle, mais les gendarmes nourrissent pourtant quelques doutes.
Vous écoutez Ici.
Et j'ai changé des phrases, j'ai rempli des salles et j'ai coché des cases. J'ai regardé bien haut, j'ai visé la lune, il y avait plein d'étoiles, j'en ai décroché une. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça dans les mains, vu que c'est un peu lourd et qu'il reste du chemin? Alors je fais ce qu'on fait dans ces moments, je souris bêtement, je me dis et maintenant.
J'entends chanter les gens, je les entends dire mon nom. Je prends des photos pour prouver, pour me dire que j'y étais. Quand les lumières s'éteignent, c'est les doutes à qui viennent se rallumer. Parfois je me sens un point dans l'univers. Je ne sais plus quoi faire. Je regarde devant. C'est quoi le prochain rêve?
Le prochain rêve.
Le prochain rêve.
Le prochain rêve.
Le prochain rêve, il m'appelle ou il m'attend?
Le prochain rêve, c'est la suite ou le commencement?
D'ailleurs un rêve,
ça se prolonge ou ça se remplace?
Ça se cultive ou ça se dépasse?
Ça s'imprime ou ça s'efface?
Le prochain rêve, il est prêt ou il est loin?
Le prochain rêve, une envie ou un besoin?
D'ailleurs un rêve,
ça se laisse faire ou ça résiste?
C'est abstrait ou réaliste?
Ça s'invente ou ça existe?
Tu vas faire quoi maintenant? L'horizon bouge encore. Prendre un peu plus le temps. Voir le prochain décor. Le prochain décor. Est-ce que les rêves peuvent s'étirer sans les abîmer, les déchirer?
Se renouveler, c'est la consigne. T'es un peu dans le flou, c'est bon signe. L'incertitude est un endroit qu'on savoure. C'est jamais une impasse, souvent un carrefour. Questionner, c'est ne pas s'endormir. Douter, c'est l'envie qui respire. Le flou, c'est l'imagination qui se relève. Et c'est sûrement le chantier du prochain rêve.
Parfois, je... Le prochain rêve, le prochain rêve.